Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Oh, le petit vin de Londres.
RTL.
Qu'on boit sous les tonnelles.
C'était si je le marin qui revenait de Saint-Malo.
Ils entrèrent dans une auberge pour y voir du vin nouveau.
Oh. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous avez bien sûr aussi reconnu le petit vin, le petit vin de Lina Margie. Eh bien oui, les vendanges ont commencent dans certaines appellations. Les foires au vin, vous l'avez remarqué aussi, battent leur plein dans toutes les grandes surfaces, chez les cavistes. Mais que choisir? Qu'est-ce qui fait un grand vin? Quelle est l'histoire derrière ces grands vins? On a évidemment voulu en savoir plus, faire les curieux et vous faire rêver grâce à nos invités œnophiles et œnologues. Bonsoir Aurélie Labruyère.
Bonsoir Sidonie.
Bonsoir.
Bonsoir Julien Gacon.
Bonsoir Thomas.
Bonsoir Sidonie.
Vous êtes tous les deux grands connaisseurs des vins de France, des palais, j'imagine aussi. Vous allez nous faire rêver.
Bienvenue à vous. Hein. Moi, j'ai pris un carnet. Je vais noter au fur et à mesure.
On a la liste des courses, c'est ça?
Oui.
Bah tiens, justement, pour ces foires au vin, on dit souvent que c'est l'occasion de dégoter un grand cru, pas trop cher, mais un grand cru. Cru, c'est quoi? Ça veut dire quoi?
Cru, c'est le participe passé du verbe croître. Donc, c'est là où la vigne a cru. C'est là où la vigne pousse. Donc, c'est une délimitation, une parcelle, un morceau de terrain, un morceau de terroir, tout simplement, qui donne un raisin, qui donne un vin.
Mais alors on dit grand cru, ça veut dire qu'il y a des petits crus?
Il y a des petits, il y a des grands, bien sûr. Un cru, c'est d'abord...
Mais c'est la qualité?
C'est la qualité. Alors c'est une notion tellement vaste qu'on pourrait disserter dessus toute la soirée. Le grand vin, pour nous, c'est le vin qui incarne une vision, la vision de son producteur, son créateur, on pourrait même dire, et qui va la porter jusqu'au verre pour l'amener à quelqu'un qui est lui-même amateur, curieux, et qui boit de la passion à travers ce verre.
Alors vous avez, avec vous, on va se balader d'un terroir à l'autre, d'une région de production de vin à l'autre, et en choisissant les plus grands crus, vous publiez pourquoi est-ce un chef-d'œuvre, 80 crus et vins expliqués aux éditions Erol. Donc je dis la liste des grands crus, on commence par un Claude Vougeot. C'est pas mal pour démarrer. Alors on est dans quelle région et c'est quoi? C'est du blanc, du rouge, du rosé? Je fais le béotien, hein, exprès.
Oui. Et en même temps, on ne fait pas les connaisseurs. On va
juste
rester curieux. Je suis curieux avec vous ce soir. Oui, donc le Claude Vougeot, c'est en Bourgogne. C'est juste au-dessus de Dijon.
Oui.
Et ce sont des parcelles. C'est une parcelle. C'est-à-dire que, comme son nom l'indique, Clos, c'est une vigne qui est entourée de murs. Et ces délimitations datent du Moyen-Âge.
C'est un rouge, c'est un blanc?
C'est quoi?
un rouge.
Il y a un petit peu de blanc. Et cette définition permet de définir le vin lui-même.
C'est des moines qui cultivaient ces vignes, c'est ça l'histoire de ce Claude Vougeot?
Ça fait partie des possessions de l'abbaye de Citeaux. Il y en a beaucoup en Bourgogne. Donc c'est l'origine du cru, elle vient de là. Maintenant, aujourd'hui, ce ne sont plus des moines, évidemment. Le Claude Vougeot, c'est une cinquantaine d'hectares, mais qui sont divisés en 70, voire 80 propriétaires différents. Donc il y a 80 Claude Vougeot, d'une certaine manière.
Donc 80 goûts différents, c'est
ça? C'est ça.
Mais comment on s'y retrouve?
Des nuances. Ce qui est important, c'est les nuances dans le monde du vin. On apprend, plus on déguste dans le temps, plus on approfondit sa passion, plus on apprécie la nuance la plus fine, avec un vin qui, pourtant, n'est fait que d'un seul et unique cépage. Le Pinot Noir sur 50 hectares.
Mais comment on s'y retrouve dans ces... Donc, combien vous avez dit?
80
propriétaires
et
différents. En Bordeaux, il y a des noms de châteaux.
C'est ça.
En Bourgogne, ce n'est pas la même chose.
Et non. Dans chaque région, il y a une logique de nomination du vin qui est aussi une logique pour comprendre l'excellence. À Bordeaux, on appelle château une délimitation qui représente un certain nombre de parcelles plus une propriété viticole qui peut être constituée de prés, de domaines, y compris une demeure. Et c'est ça qui va être le nom du vin, château quelque chose. En Bourgogne, c'est la parcelle elle-même qui est classée et qui donne son nom final au vin. Claude Vougeot, ça peut être le Claude Tard, ça peut être le Croparentoux. Tout cela, c'est délimité comme un cadastre viticole et hiérarchisé sur une pyramide avec un certain nombre de niveaux d'appellation d'origine.
Alors on a défini, parce qu'on aime bien définir les mots dans l'émission, c'est vrai que ça ouvre pas mal de portes, on a défini cru. Un cépage, c'est quoi?
Alors le cépage, c'est la variété de la vigne. Ce sont des variétés qui sont développées localement, qui peuvent s'exporter également et qui vont conférer au vin ces différents caractères. Donc ça ne pousse pas de la même manière ça ne se développe pas de la même manière sur les différents vignobles du monde. Ça peut s'exporter, ça peut se travailler tout à fait traditionnellement dans un lieu où il est apparu. On parle du Pinot Noir en Bourgogne ou du Chardonnay.
Quoi, je ne comprends pas bien, c'est la plante?
Oui, c'est la variété de plantes qui va donner un certain raisin.
D'accord, ok.
Comme il y a des pommes golden, des pommes granny, et ben il y a aussi un certain nombre de raisins qui portent des noms. Alors les plus connus, c'est Cabernet Sauvignon, c'est Merlot, c'est Syrah. Il y en a en fait plus de 1400 sur Terre qui donnent du vin. Il y a même 4000 cépages en général qui donnent autre chose, enfin, des raisins de table, des raisins à croquer, des raisins de cuve. Mais il y en a 1500 presque qui donnent du vin. Donc la variété est immense et pourtant on se concentre sur 5, 10, 15 vins qu'on connaît dans notre pays ou en Europe.
Alors on va rester peut-être en Bourgogne avec un vin là aussi mythique qui s'appelle la Romane Conti. Alors c'est compliqué de pouvoir acheter quelques bouteilles de ce vin ou alors il faut peut-être écrire une chanson comme Anne Sylvestre.
J'ai bu et je m'en vante des 100 et des 50 bouteilles du meilleur. Que Bordeaux me pardonne, j'appartiens aux Bourgognes, en lui cuve mon cœur. J'en ai connu de braves, de tendres, de charmeurs. J'en ai connu de graves, de couronnés, de tout en fleurs. Mais je voudrais pas crever avant d'avoir goûté. Assure que je voudrais pas mourir avant d'avoir vu ces rubis couler dedans mon verre. C'est ma seule prière. Ah, laissez-moi boire à genoux la reine des vins de chez nous. La Romanée Conti.
Alors si vous voulez savoir si Anne Sylvestre a eu la chance de goûter et d'avoir une bouteille de Romanée Conti, bah, restez avec nous.
En récompense
à toutes les curieux.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ah, laissez-moi boire à genoux la reine des vins de chez nous. La Romanée Conti,
chantée par Anne Sylvestre. On vous raconte l'histoire des grands crus avec nos invités Aurélie Labruyère, qui enseigne le vin à HEC Paris, et Julien Gacon, qui est œnologue. Vous publiez « Pourquoi est-ce un chef-d'œuvre 80 crus et vins expliqués » aux éditions Erol. Sidonie, en préparant l'émission, vous avez trouvé la réponse. Anne Sylvestre, elle en a bu du
vin. Il se murmure dans les vignes de Bourgogne que oui, elle l'a eu, sa bouteille,
on
et qu'elle l'a savourée.
Pour pouvoir la chanter aussi bien, il fallait forcément l'avoir goûté. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce vin, la Romanée Conti?
La Romanée Conti, c'est un emblème aujourd'hui. On dirait même que c'est une institution au sein de la Bourgogne parce qu'elle concentre tous les facteurs d'excellence. On ne parle même plus de qualité à ce niveau.
Est-ce qu'on parle de goût? Parce que moi, quand je pense
bien
à vin,
sûr,
je pense à
bien
goût.
Bien sûr, c'est un pinot noir donc, d'une extrême finesse, un grand raffinement en bouche, avec les arômes de fruits, de mûres qu'on peut imaginer, mais aussi des arômes floraux. Et puis derrière, ce qui est incroyable, c'est le temps que ce vin vous donne du plaisir dans la bouche.
C'est-à-dire, ça se... Longueur en bouche.
Ça se calcule quoi, en minutes, en heures?
Peut-être, oui, pourquoi pas.
Avec un peu d'imagination, ça peut se calculer en heures. Allez, on part à Bordeaux.
Ah, je sais que vous aimez bien vous balader vers Bordeaux, Thomas Moussi d'ailleurs. À la découverte d'un autre vin mythique, c'est le fameux Château Yquem. Vous nous le décrivez dans le verre et en bouche aussi.
Château Yquem, le dernier que j'ai bu, c'était en 1955, il y a quelques jours, au château.
C'était pas en 1955,
non,
parce que vous avez parlé très vite.
Elle est beaucoup trop jeune pour avoir bu
1955. Alors c'est un millésime qui était sur une couleur de caramel, avec des arômes d'orange sanguine, qui m'ont beaucoup frappé. Et puis derrière, du miel, évidemment, mais même du miel limite un tout petit peu rancio, et ça le rendait vraiment attachant.
Rancio, ça veut dire quoi? Rancio, pourri?
Rancio, ça veut dire qu'il a évolué dans le temps. Non, c'est pas pourri, mais c'est qu'il a évolué dans le temps et qui a changé de gamme aromatique dans des arômes tertiaires.
Julien Gacon, c'est une bonne question, la question de Sidonie sur Rancy, parce que le principe du sauterne de ce château Yquem et de tous les vins de cette appellation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier, le raisin? On le laisse pourrir, c'est ça?
On le laisse pourrir, exactement. On s'acharne toute l'année à produire des raisins exceptionnels sur une terre qui est unique. Et en fin de saison, on le laisse doucement pourrir. Pierre Lurton, qui est en charge du château, parle de passer le mur du risque. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a une petite brume le matin qui se lève et qui permet aux raisins de pourrir juste assez doucement pour cela. Et ça permet d'extraire un jus extrêmement concentré.
Mais ça veut dire que... il faut le récolter d'une façon particulière aussi, parce que c'est presque raisin par raisin ou grappe par grappe que la pourriture s'installe, c'est ça?
Alors on passe parfois jusqu'à 12 fois dans une même vigne, c'est ce qu'on appelle les tris,
ouais.
Pour vendanger la parcelle.
À la main forcément?
À la main.
À la main forcément, et avec des équipes qui sont dédiées, avec un savoir-faire qui est inscrit au château depuis des siècles.
Il ne faut pas oublier que le raisin doit être botrytisé, c'est-à-dire qu'il a subi l'effet d'un champignon, qui a un joli nom latin, Botrytis cinerea, et qu'on ne va chercher parfois qu'au sein de la même grappe que les baies qui ont subi la botrytisation.
Oui, il a vraiment ce raisin a un traitement vraiment très particulier. Est-ce que c'est ce qui justifie le prix d'un Château Yquem? Alors on a regardé un peu, pour un Château Yquem 2009, 720 euros. Pour un 2007, la bouteille, 515. Et encore, ce ne sont même pas des millésimes exceptionnels. Comment on explique un tel prix?
C'est plus une question de prix, c'est une question de valeur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce vin? Qu'est-ce qu'il y a dans ce verre qui est véhiculé jusqu'à vous? Il y a un concentré d'histoire, bien sûr. Il y a un concentré d'abord de terroir, de facteurs d'excellence agronomique, climatologique, qui sont exceptionnels. On est à 70 mètres au-dessus de la mer, c'est le point culminant de Sauternes. Une centaine d'hectares sur les différents coteaux avec des expositions particulières. Et puis une histoire, 400 ans dans la même famille, les Lursalus, un rachat en 1999 par LVMH. C'est tout ça qu'on voit concentré. C'est quand même un des vins que Jefferson a recommandé parmi les premiers, que le critique gastronomique Kurnansky a considéré comme l'un des meilleurs vins au monde. Donc le prix que vous m'avez cité, il est presque petit par rapport à toute cette valeur.
Oui. Accolé à Château Yquem, on lit « Premier cru supérieur 1855 ». C'est quoi cette date 1855?
C'était la date magique à Bordeaux, c'est un peu le nombre d'or de Bordeaux. Ça fait référence à un classement qui a eu lieu sous Napoléon III, tout simplement parce que Napoléon III faisait une exposition universelle à Paris, qui est la toute première d'ailleurs, et qu'il a demandé aux vignerons, si on peut dire en résumé, d'envoyer les meilleurs vins de Bordeaux représenter la France dans cette exposition universelle. Il a fallu faire une liste.
C'est le premier Château Yquem ?
Premier, par le critère qui était à l'époque celui du prix des millésimes, sur une base d'une trentaine d'années. Donc c'est une moyenne mathématique. Et cette moyenne, elle s'explique parce que les prix des vins ont toujours été très élevés, parce que la valeur d'Yquem a toujours été très reconnue.
Juste après les infos sur RTL, on continuera de découvrir ces grands vins.
Vous écoutez RTL.
RTL. Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Rebonsoir les curieuses et les curieux. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue sur RTL.
C'est ta chance, le cadeau de ta naissance.
À vous chanter aussi. Moi, la bien. Chance, le talent de Jean-Jacques Goldman. Pourquoi? Parce qu'on va en savoir plus tout à l'heure sur la chance de façon concrète. On se demandera aussi si la chance n'est pas, tiens, le fruit de notre imagination.
Je ne sais pas si c'est très raisonnable, mais tout de suite, on continue la tournée des grands
non,
vins.
Non, personne n'a bu.
La tournée des grands vins, dans la curiosité, sur RTL.
Boire un petit coup, c'est agréable.
RTL.
Boire un petit coup, c'est doux.
Quand je bois le vin clair, un mitre tourne.
La curiosité est un vilain défaut.
Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine. Les gens par milliers pourront y noyer leur peine.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Que vienne le temps du vin coulant dans la Seine, les gens par milliers courront y noyer leur peine. Ça, c'est un grand cru aussi, Brassens. Hein, on raconte justement l'histoire de ces grands crus avec nos invités, les œnologues Aurélie Labruyère et Julien Gacon. On part dans le Bordelais, d'ailleurs, on y était déjà tout à l'heure, on y reste. Et on va découvrir l'un de ces vins mythiques, c'est le Château Cheval Blanc à Saint-Émilion, en Gironde. Quels sont ses faits d'armes, si on peut employer ce genre d'expression pour le vin?
Pour un cheval, ça va pas mal. Hein.
Alors, c'est quoi? Alors c'est quoi? C'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire, c'est une antériorité, c'est un projet...
C'est quoi une antériorité? C'est une histoire de l'histoire.
C'est un projet qui reste intact depuis le 19e, c'est-à-dire qui n'a pas varié à travers des modes, à travers...
C'est quoi un projet? Ça c'est des mots de spécialistes.
Oui,
c'est quoi un projet? C'est quoi une idée du château, une idée du vin, de son goût?
C'est une haute idée. Une haute idée de son travail. On parlait tout à l'heure des climats de Bourgogne. Un bourguignon va, en se rasant le matin, chercher à faire le meilleur vin possible sur une parcelle donnée. À Cheval Blanc, comme à Bordeaux, on a cette notion de château, c'est-à-dire de propriété. C'est-à-dire qu'à travers un ensemble de parcelles qui appartiennent au château, on va faire un vin qui sera défini, qui sera dans le temps, toujours le même projet, qui va permettre aux différents millésimes d'apparaître, et donc à la nuance.
Mais vous dites une haute idée de la qualité du vin. Ça veut dire que certaines années, ce Cheval Blanc ou d'autres très grands crus peuvent ne pas être commercialisés parce qu'ils jugent que la qualité n'est pas au rendez-vous. Ça arrive, ça?
Alors ça arrive. On parlait d'IKEM tout à l'heure. Au XXe siècle, IKEM n'a pas présenté une dizaine de millésimes. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut travailler le vignoble, travailler au château toute l'année pour un résultat de zéro. Mais la réputation mondiale auprès des grands amateurs est à ce prix. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on l'a construit. Pour les vins rouges, c'est un petit peu plus rare. Il faut vraiment une catastrophe. Aujourd'hui, grâce à la technique, on avait jusqu'aux années 50, 1950, une connaissance assez empirique du vin. Aujourd'hui, des avancées scientifiques ont permis au vin d'être beaucoup plus régulier, sans gommer, évidemment, et sans altérer, sans dénaturer le projet de départ.
Il n'y a plus d'années sans, quoi.
Aurélie Labrouillard, c'est bon comment un cheval blanc, un château cheval blanc? Alors, cheval blanc, on a le privilège de temps en temps de le goûter en primeur, c'est-à-dire dans sa jeunesse. On découvre à la fois du Merlot et du Cabernet Franc, puisque c'est la particularité de l'assemblage de ce vin. Un peu de Cabernet Franc à Saint-Émilion, c'est relativement rare. Et on y trouve, encore une fois, de l'élégance dans le fruité, qui est un fruité au départ de mûr et de cassis, par exemple, sur la jeunesse. Et puis, Julien a pu goûter un 47, ce qui n'est pas mon cas. Qu'est-ce que ça donne, un 47?
C'est quoi, un cheval blanc 1947, c'est ça, ça. Alors, ça dit quoi?
Et alors,
moi, j'ai les yeux qui brillent. Là.
C'est pas radiophonique du tout, hein, cheval blanc 47.
Votre palais c'est bon doit s'en souvenir quand même.
Le palais s'en souvient bien évidemment. On est sur un vin qui a marqué l'histoire du vin en général.
Peut-être votre portefeuille aussi s'en souvient. 224 000, une bouteille chez Christie's a été vendue à ce prix-là. Une bouteille de 1947, justement.
Exactement.
C'est vous qui l'avez
acheté. Alors, attention.
Vous ne sortirez pas vivant de ce studio.
À ce prix-là, c'était la caisse entière quand même.
Ah, quand même, ça va.
Ah, pardon, il y en avait 12.
Il y en avait 12, faut pas exagérer.
Ça va.
Ça met la bouteille à 20 000 euros, c'est rien.
Exactement. Voilà. Plus sérieusement, c'est une bouteille qui a marqué l'histoire. Chaque fois qu'on en boit une, par définition, il y en a une de moins sur Terre.
Il en reste combien de 1947? Ça, c'est mystérieux.
C'est-à-dire que là, on n'est plus sur une notion de marché, mais on n'a plus que des occasions extraordinaires de les goûter. Donc, si on en trouve une,
vous penserez à nous. Ah non, pardon.
Alors, il y a un nom de château à Bordeaux. Il faut quand même qu'on en parle, parce que si je ne le fais pas, je vais me faire taper sur les doigts par ma sœur. C'est Lafite Rothschild. Il se trouve que je connais pas mal son histoire parce qu'elle y travaille. Lafite Rothschild, c'est un des plus grands crus aussi dans le Bordelais.
Tout à fait. Lafite fait partie des premiers crus classés en 1855. C'est dans l'appellation Pauillac. Mmh. Pauillac qui a plusieurs crus classés, d'ailleurs plusieurs premiers. C'est une grande concentration de crus classés, l'appellation Pauillac, avec en l'occurrence Mouton et Latour. Et Lafite a une particularité qu'on aime bien raconter, c'est son lien et sa place en Chine. Il y a un extraordinaire engouement depuis déjà 20 ans pour Lafite de la part des Chinois éduqués et un peu fortunés aussi, il faut le reconnaître. Et en particulier sur le millésime 2008. Vous savez que les Chinois sont friands de symboles et de
numérologie.
De numérologie.
Mmh. Et donc 2008
pour eux. Voilà, le chiffre 8 signifie dans leur langage, se prononce de la même manière que le mot prospérité, succès, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu les Jeux Olympiques, un certain 888, c'est pas du tout un hasard évidemment. Ouais. Et c'est pour ça que le Château Lafite a eu la bonne idée de mettre le signe bas, le signe 8, en 2008 sur sa bouteille. Donc c'est la minuscule différence de packaging, si on peut dire, de cette bouteille. Et alors ça fait un succès extraordinaire.
On continue de se balader en France, on continue la dégustation évidemment. On va partir dans la Loire découvrir un autre vin, c'est la Coulée de Séran. Soyez au rendez-vous les amis, à toutes.
Vous écoutez RTL, la curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte des secrets. C'est Salvador Dali qui disait ça, c'est ce que nous faisons nous aussi, goûter des secrets grâce à nos invités. Ils sont œnologues, Julien Gacon et Aurélie Labruyère. Alors depuis tout à l'heure, on parle des plus grands vins français, on va continuer, mais pendant la pub, Sidonie, vous vous demandez, mais attendez, vous buvez quoi chez vous? Vous buvez que des grands crus?
Non, on boit de tout. Enfin, heureusement, mon mari en plus est viticulteur et on a des vins de tous les niveaux de prix, le plaisir n'est pas proportionnel au prix.
Ça veut dire qu'un vin à 6 euros ou 7 euros, 8 euros peut être un bon vin?
Mais bien sûr, c'est pas forcément un grand, mais c'est un
bon.
Je
vous dis ça, je connais la réponse, que j'en achète régulièrement. Ah, mais bon, pour des amateurs comme vous, vous qui avez vraiment un palais hyper, hyper fin.
On a du plaisir à tous les niveaux de prix, à condition que le vin réponde à certaines attentes et puis qu'on soit un peu curieux.
Alors, tout à l'heure, Sidonie a annoncé un vin de la Loire, la Coulée de Séran. J'aime beaucoup le vin et j'avoue que je ne connaissais pas ce vin. Alors racontez-nous l'histoire de la coulée de Céran. D'abord, est-ce que c'est un rouge, un blanc
C'est un vin blanc qui fait même partie de la quinte Kurnonski. Alors
quoi,
Kurnonski, c'est un critique gastronomique du 19e siècle qui s'est donné un jour comme défi de dire quels sont les 5 meilleurs vins blancs au monde.
C'est et horrible ça. C'est comme quand on vous demande quels sont vos 5 films préférés, mais on ne peut pas s'en sortir. Il y en a trop.
Mais lui, c'était son métier.
Et il était sûr de lui, apparemment.
Donc les 5 meilleurs blancs du
parmi monde. Lesquels il a cité Châteaugriet, Montrachet, Ikem,
dont on a parlé
tout à l'heure, la coulée de Céran. Voilà, la coulée de Céran fait partie de cette quinte.
C'est un vin blanc comment ?
C'est un vin blanc de Chenin. Non, il n'est pas liquoreux et pourtant il a une certaine épaisseur en bouche. C'est très étonnant. C'est un vin de Chenin 100%. Chenin, c'est le nom du cépage, donc la fameuse variété de vigne dont on parlait tout à l'heure, qui est cultivée sur seulement 7 hectares, hein, c'est tout petit, et qui a la particularité d'être cultivée en biodynamie.
C'est quoi ça ? Ça veut dire quoi ?
Bio en grec, c'est la vie, dynamie, c'est le mouvement. C'est une éthique de viticulture, une éthique même agricole, qui est appliquée par de nombreux viticulteurs à leur vigne et qui, grosso modo, se fondent sur le calendrier lunaire et des pratiques qui sont non seulement biologiques, mais qui vont encore plus loin.
Ah, c'est un vin bio, en fait ?
Pas seulement. Ça va beaucoup plus loin que la biologie, puisqu'on
ça
a
veut dire,
un certain nombre de rituels.
Ça veut dire, par exemple, le début de l'été, je suis allé dans le Bordelais et j'ai vu des chevaux qui passait au milieu des vignes, qui retournait la terre.
Vous avez bu combien de...
Non, j'étais parfaitement sobre, c'était au début du week-end. Après, on peut en parler. Mais donc ça, c'est ça la biodynamie ?
Entre autres.
C'est ne pas utiliser de machines...
Alors, ça en fait partie, effectivement. C'est un ensemble de pratiques qui nous viennent d'un philosophe allemand, Rudolf Steiner, autrichien,
ouais.
qui a émis un cours aux agriculteurs qui aujourd'hui sert à beaucoup de personnes dans le monde du vin. On peut s'interroger sur le fondement intellectuel de cet enseignement. Mmh. On parle de pratiques très, très ésotériques, ouais. En fait. Hein.
Bah, moi, je ne comprends rien. Pourquoi c'est ésotérique ?
Alors, c'est ésotérique parce que vous allez utiliser des cornes de vache dans lesquelles vous allez insérer de la bouse.
Ce sont les rituels dont nous parlait Aurélie, c'est
exactement.
Ça ?
Exactement. Au départ, ça a été fait en réaction au traitement de l'industrie phytosanitaire.
Il y avait trop de produits, quoi.
Qui était extrême. Mmh. Donc, en réaction, des vignerons se sont mis dans ces démarches et il faut avouer que même si on croit ou on ne croit pas à ces pratiques, ça oblige les vignerons à travailler à la main et ça, c'est bénéfique.
Alors, on a eu la corne avec
les préparats, les tisanes, c'est
ouais.
aussi une grande composante de cette forme de pratique viticole. On utilise des tisanes de plantes, mm-hmm. donc séchées, qui sont ensuite dynamisées. Donc, c'est la deuxième moitié du mot, ça veut dire qu'on les place dans un bac, une cuve, et que le viticulteur agit par un certain nombre de mouvements, qu'on appelle le vortex, pour délivrer une forme d'énergie de la plante et répartir ensuite cette préparation sur ses vignes pour un certain nombre d'effets thérapeutiques.
Ne pas faire seul, évidemment.
Oui, n'essayez pas chez vous. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans une foire au vin. Est-ce qu'on peut donner quelques conseils aux auditeurs d'RTL pour bien lire une étiquette ? Qu'est-ce qu'il faut chercher sur une étiquette qui est peut-être un gage de qualité ?
Gage de qualité, il n'y en a jamais à 100%. Hein. Oui. L'important, c'est de éduquer son palais en goûtant, à mon avis, le plus de choses possibles, le plus variées possibles.
Mais au supermarché, on ne
peut pas encore goûter.
Alors, il y a de plus en plus de dégustations qui sont organisées à l'occasion des foires au vin, autour des foires au vin aussi. Et puis, on a peut-être parfois des grandes autoroutes à suivre, donc des vins qui ont une réputation élevée que vous allez trouver dans les foires au vin, tant mieux. C'est une très bonne façon de les sourcer. Ce n'est pas toujours facile d'accéder à ces vins. Et de temps en temps, il faut aussi se faire plaisir avec des appellations moins connues, un peu surprenantes, qui vous seront, j'espère, correctement recommandées par les sommeliers ou cavistes qui circulent dans les foires au vin.
Tiens, par exemple, un vin de Tahiti, vous nous en avez parlé juste avant l'émission, on en dit un mot. C'est quoi ce vin ?
On aurait bien aimé aller visiter sur place, mais ce n'était pas prévu au budget de ce livre. Ouais. Le vin de Tahiti, c'est quand même le vin le plus exotique des vins de France, puisqu'il fait partie des appellations d'origine française, en quelque sorte, dans la catégorie de base, qui sont les vins de France. Et il s'appelle le Clos du Récif. Donc, c'est un vin qui est fait sur un atoll avec un sol de corail.
Génial. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
À tous les deux pour ce voyage dans les vignobles en France. Vous publiez Pourquoi est-ce un chef-d'œuvre, 80 crus et vins expliqués aux éditions Héros.
Et ben voilà. Tiens, j'ai un petit exercice de diction
oui,
pour vous. C'est
vous
parti.
Me donnez. D'accord. Ah, en effet, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la chance sans jamais oser le demander.
Bravo.
C'est à suivre sur RTL.
Vous écoutez RTL.